si vous saviez comme c'est pas gênant de parler de toutes sortes de problèmes avec David Gauthier. Salut!
Allô, ça va?
Oui, ça va bien, ça va
oui.
bien.
Oui, on se disait avant d'entrer en onde qu'on aurait pu faire comme trois chroniques finalement,
oui,
à force de jaser.
Oui, aujourd'hui, effectivement, puis j'ai toujours une petite question pas
ben,
loin là.
Oui.
Puis j'en ai souvent des questions concernant les interactions médicamenteuses.
Oui, qui est un peu notre spécialité aux pharmaciens hein, et notre dada, on aime ça chercher là-dessus mm-hmm. et on se fait questionner énormément à ce sujet-là. À vrai dire, c'est pour ça que j'en ai le sujet ici, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Dans les interactions, évidemment, on a tendance des fois à penser que parce qu'un produit est sur le plancher, que tout est beau, qu'il n'y a pas d'interaction. Puis aussi, d'un autre côté, on a de la misère à imaginer c'est quoi une interaction. Mm-hmm. Et Valérie, je vais essayer de te le simplifier et de te l'expliquer du mieux que je peux, parce que des fois, ça peut être et paraître compliqué.
Si vous écoutez Stat, le personnage oui. du lecteur de nouvelles, Richer,
okay.
il s'est automédicamenté avec des relaxants musculaires, okay. puis il prenait d'autres choses en même temps, Parkinson, machin chouette, puis okay. ça finit que ça donne d'autres états.
Mais
alors,
tu vois,
c'est juste pour vous
ça, non, mais c'est un bon exemple, Valérie, parce que ouais. c'est un type d'interaction, ça. C'est de prendre un médicament, exemple, qui atteint votre système nerveux central, mm-hmm. qui crée de la somnolence, et après ça, d'en prendre un autre qui crée aussi de la somnolence. Il y a un effet cumulatif. Bang! Interaction. On appelle ça une interaction cumulative pour un produit. Il y a des interactions qu'on dit de complexation. Il y a beaucoup de gens qui savent qu'on ne peut pas des fois prendre, exemple, du calcium avec un antibiotique. Et souvent, les gens sont mêlés parce qu'ils pensent que dès qu'ils prennent un antibiotique, ils peuvent prendre de lait. C'est pas vrai. C'est pas tous les antibiotiques qui font ça. L'interaction, spécifiquement, ce que c'est que le calcium va aller prendre avec certains antibiotiques et les deux molécules vont s'unir et faire un bloc qui sera mal absorbé. Évidemment, ça va faire en sorte qu'on va être moins efficace avec notre antibiotique. C'est pas tous les antibiotiques, je le redis, mais ça l'arrive.
Mais ton antibiotique aussi pris avec un anovulant,
oui.
des fois, ça peut diminuer la.
Oh, j'aime ça. Sais-tu pourquoi?
Ben non, je
non.
sais pas.
Puis, à vrai dire, là, c'est que c'est très, très, très théorique. La raison, l'explication derrière de ça, l'interaction, c'est qu'un antibiotique peut donner comme effet secondaire de la diarrhée.
Ah oui.
Si vous prenez votre anovulant et que vous avez la diarrhée...
Oui. Deux heures.
Quoi?
Deux, trois heures. Faut que ça prenne pour absorber, parce que j'ai déjà posé la question.
Oui, oui ça peut prendre ça environ. Okay. Fait que le problème, c'est que si vous prenez votre anovulant mais que vous avez la diarrhée, ça se peut que ça passe tout droit puis que l'anovulant soit peut-être moins bien absorbé au niveau de l'intestin mm-hmm. à cause de la vitesse d'absorption au niveau de l'intestin. Donc, si c'est le cas, bien, on pense qu'il pourrait avoir un risque de grossesse. Donc, on parle tout le temps, ça c'est une interaction qu'on dit un peu plus théorique, mais en même temps, la conséquence est quand même
parce
majeure.
J'ai entendu ça déjà.
Fréquemment.
Ouais.
C'est comme l'interaction entre le millepertuis et les
oui.
contraceptifs oraux. Ça, je vais essayer de t'expliquer, Valérie. C'est une question de cytochrome P450. Il y a des médicaments qui sont évacués, éliminés par le foie et d'autres par les reins. Énormément par le foie. Et dans le foie, on a des petites bébites qui s'appellent des cytochromes P450. Et il y en a plein de ça. Il y a des 2D6, des 3A4, des 2C19. C'est un peu comme des races de chiens. On en a plein, plein, plein. Et il y a des médicaments qui, exemple, vont passer pour être éliminés. Exemple, prends ton contraceptif oral, va être éliminé par le cytochrome P450-3A4. Okay? Lui, il passe par là. Le millepertuis, lui, ce qu'il fait, c'est un inducteur de ce cytochrome-là. Ce que ça veut dire, c'est qu'il augmente le nombre de cytochromes. Ce que ça fait, c'est que votre médicament va être éliminé plus rapidement.
Ah oui.
Au lieu d'être éliminé par, mettons, 3-4 cytochromes, le millepertuis y arrive, il augmente ça à 10. Eux autres sont tous en train d'éliminer l'autre médicament. Donc, on commence à manquer de médicaments. Pour le simplifier, donc, il y a des médicaments qui vont augmenter nos cytochromes. Il y en a qui vont les diminuer. Donc, si on les augmente, on élimine plus vite les autres. Si on les diminue, on élimine moins vite. Je te donne un autre exemple. Le DM, le dextrométhorphan qui mm-hmm. est dans les sirops, l'anticoccif.
Que t'aimes pas, là.
Je suis pas un grand fan.
Ouais.
Je l'ai encore dit tantôt à quelqu'un. Maintenant, ils vont le savoir. Mais c'est, lui, il passe par... il travaille sur le 2D6. Il va finalement... Il est éliminé par le 2D6. Si on prend un médicament qui diminue le 2D6, et là, Valérie, il y a plein d'antidépresseurs qui diminuent le 2D6. Ce que ça fait, dextrométhorphan ne s'élimine pas, ou peu. Qu'est-ce qu'on fait? On finit par avoir des hallucinations, même à force de prendre du DM.
Aïe.
Valérie, juste du Advil, j'ai répertorié au-dessus de 100 interactions. Et juste des interactions par effet cumulatif de risque de saignement, juste ça, pour nous, c'est une interaction qui peut être valable dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas. Les personnes âgées, évidemment, qui prennent beaucoup, beaucoup de médicaments sont plus à risque d'avoir des interactions médicamenteuses. Fait qu'évidemment, questionnez-nous. Les gens qui ont des problèmes de foie, les gens qui ont des problèmes de rein, c'est ce que je te disais, les médicaments, c'est les deux voies d'élimination principales. Évidemment, si tu fais de l'insuffisance hépatique, ton foie ne fonctionne pas assez. Si tu fais de l'insuffisance rénale, ton rein ne fonctionne pas assez. Nous, c'est pas rare, les pharmaciens, qu'on doit ajuster des doses chez une personne âgée que le rein ne fonctionne pas bien. Au lieu de donner, exemple, 1000 mg par jour, on va lui donner juste 500. On le sait que c'est suffisant parce qu'elle ne l'élimine pas à un rythme qui est convenable. Le pamplemousse, même chose. C'est un cytochrome. Et sache que le pamplemousse diminue le cytochrome P450, 3A4. Mais c'est une longue interaction. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on diminue le stock de 3 à 4, c'est pas du jour au lendemain que ton corps refait son stock. Donc, il y a beaucoup d'interactions. On pense souvent aux statines,
oui,
à atorvastatin pour le cholestérol, qui passe par le 3A4, donc qui pourrait avoir un impact. Donc, on peut accumuler cette molécule-là dans notre corps à cause du pamplemousse. Par contre, il y a beaucoup de gens qui se trompent parce qu'il y a beaucoup de statines qui ont cette interaction-là, donc tous les médicaments pour le cholestérol, mais pas le rosuvastatin, pas le Crestor. C'est juste pour dire
ça,
à quel point...
Ça, c'est le mien.
Mais tu vois,
mais
tu
j'ai
peux
peur
boire, tu
quand même. Mais j'ai quand même peur d'en
exactement
manger des pamplemousses.
Mais
sais-tu
quoi? Même des fois, puis il y a des médecins, puis je comprends, ils vont marquer pas de pamplemousse, puis c'est du Crestor. Non, c'est pas vrai. Mm-hmm. On peut. Mais c'est mêlant, il faut fouiller, il faut savoir, faut aller s'informer. Dans les produits naturels, puis je vais terminer avec ça. Exemple, puis j'aime ça en parler, on parlait tantôt du millepertuis, qui est l'exemple assez commun, parce qu'on en a beaucoup entendu parler. Le ginkgo biloba. Le ginkgo biloba, Valérie, c'est un substrat. Et là, quand je parle de substrat, ça veut dire que lui, il passe par le cytochrome 1A2, 2D6, 2C9, 2C19, 3A4.
Bingo.
Exactement. Imagines-tu le mélange que ça peut faire si vous prenez d'autres médicaments qui ont un impact sur ces cytochromes-là? On vient tout débalancer le métabolisme de vos médicaments. L'échinacée, qui augmente votre système immunitaire en théorie. Évidemment, je n'ai pas grandes études pour prouver ça, mais c'est quand même la théorie. Bien, si on s'en va stimuler le système immunitaire d'une personne qui a une maladie immunitaire, qu'on veut calmer son système immunitaire, peut-être qu'elle ne sait pas. Elle va aller le prendre, mais moi, mon travail après, quelqu'un qui fait de la sclérose en plaques ou qui a du lupus ou de l'arthrite, mais il ne faut pas que j'y donne des kinacées. Peu importe si je sais si ça fonctionne ou pas, je ne prends pas le risque de le faire. Les gens qui prennent du coumadin, les gens qui prennent de l'aspirine, tous les médicaments qui vont éclaircir le sang, là, on a des problèmes. Tout ce qui est anti-inflammatoire avec ces molécules-là, il y a beaucoup de pommades, Valérie, pour la douleur, que j'ai des interactions avec les médicaments qui éclaircissent le sang. Il y en a beaucoup de pommades. Il y en a que je peux. À vrai dire, les pommades qui ont du menthol dedans, il n'y a aucun problème. Il y a des pommades qui ont des salicylates à l'intérieur, j'ai un problème. Donc, tu sais, la liste ne finit plus, évidemment. C'était pour vous dire, en gros, là, votre foie, votre rein, l'accumulation d'effets, donc l'effet cumulatif de molécules, c'est tout un problème. Alors, de grâce, venez nous poser la question.
Ah oui, je pense que c'est vraiment la façon de bien se démêler, là, c'est d'aller poser la question. Puis ça, c'est le genre de choses que vous vérifiez aussi quand on attend pour avoir nos médicaments.
Mais complètement, c'est le genre de choses qui nous prend du temps. Puis ouais. Valérie, tellement que nous, on a des touches automatiques pour aller essayer de manifester dans notre système, de nous faire ressortir les interactions. Puis en même temps, Valérie, aujourd'hui, j'ai plein d'interactions qui ont sorti que j'ai servi quand même, parce qu'il faut que je me serve de mon jugement. J'ai une interaction qui dit, exemple, de classe 1, de classe 2, de classe 3. Une classe 3, 99 % du temps, je la laisse passer, parce que je le sais que le risque est beaucoup plus faible que le bénéfice. Une classe 1, ça se peut que j'essaie de changer de médicament. Une classe 2, jugement professionnel de savoir qu'est-ce qu'on fait. Et souvent, d'aviser notre patient. Si vous êtes trop somnolent, s'il y a ce risque-là, si prenez votre pression parce qu'il y a une interaction avec le médicament, dites-moi-le, on va s'ajuster. Mais même nous, quand, évidemment, il y a plein de choses que je sais par cœur, mais il y a plein de choses que je ne sais pas par cœur, que je dois aller vérifier. Mais l'important, c'est aussi de bien l'interpréter. Et c'est ça, parce que si vous lisez et que vous voyez une interaction puis que ça fait en sorte que vous n'avez pas le goût de prendre un médicament, vous êtes peut-être dans l'erreur. Peut-être qu'en faisant une bonne évaluation de la situation, il faut le prendre quand même avec précaution, tout simplement.
Merci de faire ça pour nous.
Hey! Plaisir.
À la semaine prochaine. Bye.